Vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Depuis un peu plus d'un an, plus besoin de certificat médical pour un jour de maladie. On va voir si on peut faire un bilan de cette mesure. Mais d'abord, retour sur l'attaque iranienne de samedi en Israël et sur la relation tourmentée et complexe entre ces deux ennemis historiques. Je m'appelle Sarah Saadi Garcia. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Historiquement, l'Iran et Israël sont deux États ennemis, deux adversaires idéologiques et deux rivaux stratégiques. L'attaque aérienne menée par l'Iran le 14 avril contre Israël à la suite d'une frappe de l'État hébreu sur un consulat iranien en Syrie fait craindre une escalade de cette guerre de l'ombre qui dure depuis 4 décennies. Une escalade qui pourrait faire éclater une guerre régionale dont le risque est bien réel. Baudouin Loss est journaliste au Soir et spécialiste du monde arabe et d'Israël. Il revient avec nous sur les derniers événements et leurs potentielles conséquences et sur les relations entre l'Iran et Israël, des relations qui, vous l'entendrez, n'ont pas toujours été aussi dégradées. Bonjour Baudouin.
Bonjour.
Pouvez-vous tout d'abord rappeler ce qu'il s'est passé au Proche-Orient dans la nuit de samedi à dimanche ?
Oui, en fait, pour ça, il faut remonter au 1er avril. Il y a eu une frappe de l'armée de l'air israélienne contre le consulat de l'ambassade iranienne à Damas, donc en Syrie. Il s'agissait pour les Israéliens de faire un grand coup d'éliminer plusieurs généraux iraniens qui sont des gens spécialisés dans les contacts militaires avec le Hezbollah, avec le régime syrien, etc. Et donc cette frappe, tout à fait rarissime, parce que les Israéliens frappent souvent en Syrie, mais jamais un bâtiment diplomatique. Et donc cette frappe a jeté la stupeur en Iran. Et les Iraniens ont donc décidé de réagir et c'est ce qu'ils ont fait d'une manière également très surprenante de leur côté, puisque dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont en effet envoyé 350 projectiles de diverses natures, depuis le petit drone qui vole à 90 km/h jusqu'à de vrais missiles un peu plus sérieux. Certainement loin de leur arsenal complet, mais enfin, un petit goût quand même assez important, puisqu'il y avait 350 projectiles en tout. Cela dit, il faut ajouter tout de suite que l'Iran avait prévenu. D'abord, ils avaient dit qu'ils allaient se venger de la frappe contre leur consulat. Ensuite, ils ont prévenu 3 jours à l'avance, via l'intermédiaire, par exemple, de la Suisse, les États-Unis, que voilà, c'est ça qui allait se passer exactement à ce moment-là, etc. Donc du côté israélien, tout était prêt avec les meilleurs alliés, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne et même la France, et quelques alliés même du côté arabe, comme la Jordanie, au-dessus duquel doivent passer les projectiles pour arriver en Israël par rapport à l'Iran. On peut dire que c'est une attaque surprise qui n'en est pas tellement, massive certes, mais pas avec les armes les plus létales, et qui donc a échoué dans la mesure où on a dit entre 95 et 99% des projectiles ont été éliminés, soit par le dôme d'acier, ce dôme de fer, ce système israélien de défense antiaérienne très sophistiqué, soit par les alliés américains et britanniques et français. On s'aperçoit qu'ils ont surtout visé 2-3 bases dans le Negev, donc c'est-à-dire le désert israélien, où se trouvent quelques bases militaires importantes, notamment pour les F-35, etc., mais où il n'y a absolument aucune population civile. Donc vous voyez que la réplique de l'Iran était assez calibrée, mais elle a quand même beaucoup surpris les Israéliens, parce que en fait, depuis une douzaine d'années, Israël a l'habitude de frapper en Syrie des objectifs liés à l'Iran, que ce soit directement des gardiens de la révolution de l'Iran qui sont en train d'aider le régime de Bachar el-Assad, ou le Hezbollah, donc cette fameuse milice libanaise qui a aussi beaucoup opéré pendant la guerre civile en Syrie aux côtés du dictateur Bachar el-Assad. Et donc ici, c'est la première fois qu'après cette attaque contre leur ambassade, ils ont considéré que la coupe était pleine et qu'il fallait montrer un geste militaire important, même si en fait, comme on s'en est rendu compte, il était assez calibré.
Juste après l'attaque, l'Iran a déclaré que l'incident était clos. Ça témoigne d'une volonté qu'il n'y ait pas une escalade du conflit.
Exactement. Donc les Iraniens n'ont pas du tout le souhait de se lancer dans une guerre régionale. Il faut dire que leur économie est vraiment très mal en point. Certes, ils n'ont pas du tout utilisé toutes leurs armes, mais les Israéliens non plus. Les Israéliens, s'ils devaient un jour sentir une menace existentielle sur eux, on en est loin, on en est vraiment très loin. Hein. Mais ils ont encore la bombe atomique. On est vraiment très loin de ce cas de figure. Les Iraniens ont tout fait pour dire que l'incident est clos. Mais en Israël, en fait, fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas tellement au niveau de l'opinion publique, ça c'est difficile à dire, mais au niveau des responsables politiques qui sont en place. Donc il faut savoir que c'est un gouvernement au sein duquel se trouvent un certain nombre d'extrémistes, d'extrême droite, et des gens vraiment décidés à tout. Et Netanyahou lui-même étant assez proche de ces gens-là, et dont l'avenir dépend, ces gens-là. De ce côté-là, on réclame des représailles pour les frappes de donc les 300 et quelques projectiles, et l'armée israélienne a indiqué officiellement qu'elle allait réagir sans évidemment dévoiler où et comment cette réaction allait prendre forme. Il existe un certain suspense pour l'instant assez dramatique dans la région. Si donc les efforts de la communauté internationale pour restreindre la volonté de vengeance d'Israël échoue, on pourrait assister au pire. Il y a quand même beaucoup d'inconnus, beaucoup de suspense, et on peut dire vraiment que la balle est dans le camp des Israéliens pour l'instant.
Et cette attaque iranienne, en plus d'être ratée, est-ce qu'elle n'a finalement pas été bénéfique à Israël du point de vue de son image vis-à-vis de la communauté internationale ?
Oui, c'est ce qu'on a constaté, en tout cas très rapidement, puisque les Iraniens avaient prévenu les alliés d'Israël qu'une attaque aurait lieu. Ceux-ci se sont organisés avec Israël et on a vu que, bien sûr, les États-Unis, ce n'est pas une surprise, les Européens, de façon très unie, ce n'est pas vraiment une surprise non plus, mais aussi donc plusieurs pays arabes, principalement des monarchies comme la Jordanie, et puis évidemment les gens dans le Golfe se sont empressés de se mettre plutôt dans le camp d'Israël, même si du côté arabe c'est évidemment pas d'une manière très vociférante, on a marqué un soutien plutôt stratégique et logistique, etc., mais certainement pas au niveau du discours, parce que c'est un peu plus délicat par rapport aux populations. Et c'était bienvenu dans le chef d'Israël, puisque comme vous l'avez dit, en fait depuis les représailles d'Israël dans la bande de Gaza après les attentats terroristes du Hamas du 7 octobre dernier, l'image d'Israël s'est terriblement dégradée, et pas seulement dans le monde arabe où elle était déjà assez affligeante, mais bien justement en Occident, parmi les opinions publiques naturellement, mais aussi on le constate quand même à des niveaux parfois politiques plus importants. Alors, cet avantage de retrouver des alliés parce qu'on est attaqué d'une manière assez virile par un pays que beaucoup de monde, en tout cas dans la communauté internationale, considère comme une entité hostile de prime abord à toute idée de droit de l'homme, à toute idée évidemment de démocratie, etc. Donc l'Iran a très mauvaise presse, et quand il se met en plus à attaquer Israël de manière massive, il y a eu cette solidarité avec l'Occident et certains pays arabes. Et donc si Israël s'engage dans un engrenage en répliquant de nouveau, etc., cette solidarité qui s'était affichée risque évidemment de s'effilocher, sinon de s'effondrer, parce que je crois que personne, mais vraiment personne au monde, sauf peut-être quelques extrémistes, Tel Aviv et à Jérusalem, personne n'a envie d'un conflit régional généralisé dont on pourrait imaginer les pires conséquences.
Pour en revenir aux relations entre Israël et l'Iran, elles n'ont pas toujours été aussi dégradées.
Jusqu'avant l'avènement de la République islamique en 1979, elles étaient même très cordiales avec le Shah d'Iran, qui était un infâme dictateur. Mais à partir du moment où les ayatollahs ont pris le pouvoir, le fameux ayatollah Khomeini, il était très anti-occidental. Il a d'ailleurs fait attaquer l'ambassade américaine. Mine de rien, en fait, il y a des choses plus subtiles que se sont passées par la suite, puisque une guerre a éclaté entre l'Irak et l'Iran l'année suivante, en 1980. Elle allait durer 8 ans et coûter la vie de probablement plus d'un million de gens des deux côtés. Et en fait, les Israéliens, pour eux, c'était un conflit extraordinairement génial, parce que c'était leurs deux plus grands ennemis qui s'entretuaient. Et donc, pour eux, au départ, c'était quand même Saddam Hussein le principal. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont participé, de manière évidemment très occulte et à travers 36 sociétés écrans, à des trafics d'armes qui ont abouti à ce que l'Iran reçoive des armes dont elle avait furieusement besoin, parce qu'au départ, l'armée irakienne était plus forte que celle de l'Iran. Et l'Iran, finalement, fait, on pourra dire, une espèce de match nul. Ça s'est terminé en 1988 avec un monceau de morts des deux côtés et personne qui était vraiment vainqueur. Mais après ça, on doit bien constater que le retour à l'animosité, disons, des leaders, des dirigeants iraniens envers Israël a repris le dessus. Des expressions rhétoriques comme ça, comme le grand Satan américain ou le petit Satan, entité sioniste, on ne prononce pas le mot d'Israël. Ce sont des choses qui ont gardé encore une certaine actualité finalement jusqu'à maintenant, hein, puisque le régime repose quand même sur une propagande pro-palestinienne, anti-américaine, anti-israélienne, anti-sioniste, etc. Très virulente. C'est un régime, le régime iranien est un régime qui est devenu d'ailleurs d'une extrême impopularité auprès de sa propre population. C'est un régime qui est en fin de course, qui est extrêmement impopulaire, mais qui a une capacité de nuire toujours très importante.
Qu'est-ce que désignent les Iraniens lorsqu'ils parlent d'axe de résistance ?
Oui, bah, l'axe de la résistance, c'est une expression qui existe depuis quelques décennies et qui englobe en fait les pays entre guillemets amis, comme par exemple celui de Bachar el-Assad en Syrie. Le Liban, dans la mesure où le Hezbollah fait partie du gouvernement au Liban, mais le gouvernement n'est pas pro-iranien, loin de là, mais les ministres du Hezbollah, évidemment, oui. Le Hezbollah, on sait que c'est un État dans l'État au Liban, donc on peut dire que peu ou prou, bah, le Liban fait partie de l'axe de la résistance. Il y a ce qu'on appelle des milices proxy, donc c'est des milices pro-iraniennes, entraînées par les Iraniens, financées par les Iraniens. Elles sont nombreuses et influentes en Irak, où le gouvernement central est dominé par les chiites. Elles existent aussi au Yémen, qui est déchiré depuis quelques années par une terrible guerre civile. Et ceux qui sont apparemment les plus forts, c'est-à-dire les Houthis, sont aussi des chiites, même si c'est une branche un peu, les Zaydites, c'est un peu compliqué, mais enfin, les Iraniens, en tout cas, les aides, et ils ont accepté certainement d'avoir quelques lanceurs de missiles, puisqu'ils ont réussi à en lancer jusqu'à Eilat, sur la mer Rouge, qui est le sud extrême d'Israël, et surtout, ils ont attaqué des bateaux dans la mer Rouge en disant que c'était des bateaux qui appartenaient à des Israéliens, etc. Ça crée une crise qui n'est toujours pas résolue, d'ailleurs, une crise de transport international maritime. Donc voilà, il y a des alliés de l'Iran dans la région qui sont relativement importants. Évidemment, ils ne font pas le poids à côté des Américains, à côté des puissances du Golfe, des alliés, la France, la Grande-Bretagne et surtout, évidemment, Israël, qui, au centre de cet échiquier très compliqué, possède quand même une armée extrêmement puissante et très sophistiquée, même si parfois elle utilise, comme on le voit à Gaza, des moyens qui n'ont pas l'air très sophistiqués, puisqu'ils sont plutôt dans la destruction massive et des massacres d'êtres humains.
En face, côté israélien, est-ce qu'il y a une angoisse réelle concernant l'acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran? Et est-ce que Benjamin Netanyahou n'a pas un peu basé sa propagande sur cette angoisse?
On peut dire en effet que le Premier ministre israélien Netanyahou, depuis qu'il a repris le pouvoir, c'était en 2009, il s'est trouvé un ennemi idéal, puisqu'il n'y avait plus l'Irak de Saddam Hussein, forcément, puisqu'elle avait été envahie et il avait fortement poussé les Américains à le faire en 2003. Depuis d'ailleurs les années 90, il a fait de nombreux discours, toute sa propagande est axée sur ce thème-là. Il faut empêcher l'Iran, qui sont des dingues, etc., et des antisémites, et qui n'ont qu'une identité, c'est de rayer Israël de la carte, pour empêcher donc ce pays d'acquérir l'arme nucléaire. Quand les Américains, sous Obama, se sont mis en tête, au contraire, de faire un accord avec, d'ailleurs, le concours des Européens, même des Russes et des Chinois, faire un accord international avec Téhéran pour que son nucléaire reste uniquement civil et n'ait aucune application militaire, Netanyahou n'a pas arrêté de crier au fou en disant on ne peut pas faire confiance aux Iraniens, si vous signez un accord, ils ne vont jamais le respecter, etc. Les Européens et les Américains et les Russes et les Chinois ne l'ont pas écouté et ont signé finalement le 14 juillet 2015 ce fameux accord de Vienne pour la plus grande rage des Israéliens, en tout cas de Netanyahou. Quand Trump est arrivé au pouvoir, ça a été du pain béni pour Netanyahou puisque en fait Trump et lui sont totalement sur la même longueur d'onde sur ce genre de problème. Et ce qu'a fait Trump, il a fait plusieurs choses en faveur d'Israël, mais disons que dans ce dossier-là, il a fait ce que Netanyahou lui avait demandé de faire, c'est-à-dire de dénoncer l'accord. C'est le seul pays, mais c'est le pays le plus important de la planète, les États-Unis, c'est le seul pays qui a dénoncé l'accord et qui s'en est retiré. Du coup, les Iraniens, alors, ont dit, oui, mais enfin, bon, cet accord sans les États-Unis, qu'est-ce que ça vaut? Et en effet, ça devenait un peu un accord un petit peu bancal. Et depuis quelques années, on sent qu'ils sont en train d'enrichir de l'uranium, etc. Certainement pas de quoi faire exploser la planète trois fois, comme les États-Unis en possèdent l'arsenal, mais peut-être assez que pour causer l'un ou l'autre Hiroshima, et c'est évidemment très effrayant. Le Mossad, c'est-à-dire le service secret israélien, ne reste pas inactif. Ils ont tué de nombreux scientifiques iraniens et même parfois des non-iraniens qui collaborent avec l'Iran. Ce n'est pas seulement des slogans qui sont certes bons pour la propagande de Netanyahou. Ils passent aux actes quand c'est possible. Ce qu'a fait Trump à l'instigation de Netanyahou a été évidemment contre-productif pour les intérêts israéliens. Ça, c'est quelque chose sur lequel tous les observateurs sont d'accord. On en est dans cette situation où finalement l'Iran, un jour ou l'autre, disposera sauf si les Israéliens décident d'attaquer carrément les installations nucléaires. Ben, on pense qu'ils n'ont pas les moyens militaires de le faire seuls. L'armée israélienne est très puissante, mais ça, c'est trop compliqué. Alors, elle pourrait le réussir si elle avait le concours des forces américaines. Pour l'instant, Biden a dit non. Avec Trump, il est bien possible qu'une oreille plus compatissante provienne des États-Unis et donc puisse lancer cette attaque commune entre les États-Unis et Israël contre l'Iran. Je vous passe les conséquences possibles, parce qu'évidemment, l'Iran déchaînerait toute la puissance de feu non nucléaire, sans doute, dont elle dispose, y compris peut-être et sans doute avec d'autres armes de destruction massive, du chimique, du biologique, ils doivent certainement avoir ça. Et ils lanceraient ça sur tous les intérêts occidentaux, sur Israël, les alliés de l'Occident dans le Golfe, etc., les sites pétroliers dans le Golfe. Bon, enfin, bref, ça risquerait d'être des conséquences inimaginables avec un bouleversement de l'économie mondiale. Et il y a plusieurs personnes qui pourraient rire dans leur barbe, ce sont les Russes et les Chinois.
Il y a un peu plus d'un an, le gouvernement fédéral s'accordait sur un principe: plus besoin d'un certificat médical pour une absence au travail d'un jour. Le prestataire RH Securex a sorti un bilan chiffré de cette mesure, 12 mois après son entrée en application. Alors, quel est son impact et qu'en pensent les médecins généralistes? Chloé Baudru a enquêté.
Je suis d'abord allée poser quelques questions à Christine Neuwelaars, consultante en ressources humaines chez Securex, pour qu'elle m'explique les tenants et les aboutissants de cette loi et son impact un an après sa parution.
Bonjour. Pourriez-vous nous réexpliquer dans les grandes lignes le contexte de la loi sur les certificats médicaux?
Cette nouvelle législation est sortie pour faire en sorte que les travailleurs puissent être absents 3 fois, un jour à chaque fois, chaque année, donc sans certificat médical.
Securex vient de publier ce jeudi 11 avril un bilan chiffré. Quel est l'impact de cette loi un an après l'adoption?
Au début, on pensait qu'il n'y avait pas du tout d'impact, mais c'était vraiment trop tôt que pour pouvoir l'estimer. Avec le recul, on constate qu'il y a quand même un impact sur le nombre de travailleurs qui ont effectivement été absents un jour au cours de 2023, surtout dans les grandes entreprises de plus de 50 travailleurs par rapport aux plus petites structures de moins de 50 travailleurs. Il faut souligner que cette différence d'absence entre les petites et les grandes structures a toujours existé. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, l'écart s'est encore plus fait remarquer. Donc, c'est-à-dire que dans les petites structures, le taux d'absentéisme a diminué légèrement, tandis que dans les grandes structures, elle a légèrement augmenté, mais du coup, ce qui fait quand même encore un plus grand écart entre les deux.
Est-ce que cette loi est la principale cause de l'absentéisme ou est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Alors, la loi n'est certainement pas la cause des absences. Ce qui cause les absences, c'est parfois la charge de travail, des causes personnelles, des raisons médicales, évidemment. Ce qu'il faut par contre souligner, c'est que là où les gens, par le passé, hésitaient parfois à aller travailler ou se forçaient à travailler lorsqu'ils se sentaient un peu moins bien, on a tous vécu ça, de se lever le matin et de dire « Ah, je me sens pas très très bien aujourd'hui, bon tant pis, j'y vais quand même », c'est de pouvoir bénéficier de ce jour sans certificat et de dire « Je vais récupérer un jour et demain, j'y retourne ». Ça permet de parfois diminuer l'impact, de tirer dessus un peu, comme on dit, tirer sur la corde et finalement, plus loin, être beaucoup plus, aggraver la situation et risquer des absences de plus longue durée.
Un an après, est-ce que vous pouvez évaluer donc l'effet positif de cette loi?
Ce qui est important de souligner, c'est que peut-être que cette nouvelle loi met en lumière l'importance du dialogue au sein des entreprises. C'est-à-dire que dès que l'entreprise détecte des signaux, tiens, il y a de plus en plus d'absences au sein de mon organisation, etc., c'est de directement engager ce dialogue avec les collaborateurs, de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les soucis que rencontrent les travailleurs qui font que l'absence a augmenté? Ce qui est par contre à relever et qu'on remarque, c'est que les gens qui vont avoir l'opportunité de prendre peut-être cette journée ou ces 2 ou ces 3 journées au cours de l'année parce qu'elles ont une petite baisse de régime, ça va peut-être impacter effectivement sur le long terme son énergie. Au lieu de tirer dessus sans cesse, peut-être que ça va permettre à la personne de récupérer un petit peu plus pour justement sur le long terme éviter les absences de plus longue durée. Peut-être que cette loi, c'est un petit peu comme le réveil pour les organisations de mettre en place ce qui n'a pas encore été fait au sein de leurs propres entreprises.
J'ai ensuite rencontré François Perle, conseiller stratégique chez Solidaris et ancien directeur général des services d'indemnité de l'INAMI, pour entendre sa réaction sur le sujet.
Bonjour.
Bonjour.
Securex vient de publier ses chiffres jeudi 11 avril. Comment réagissez-vous à l'apparition de ces chiffres? Est-ce que c'est interpellant pour vous?
Non, c'est pas interpellant dans la mesure où on s'attendait à une augmentation du nombre d'absences de courte durée, parce qu'il faut bien comprendre qu'auparavant il y avait un frein à ces absences qui était lié à la disponibilité des médecins généralistes par exemple, donc on n'est pas surpris. On sait qu'il y a un fort taux de présentéisme, donc c'est les gens qui vont travailler malades, donc cette étude confirme en fait des tendances un peu empiriques qu'on avait déjà avant, donc on n'est pas vraiment surpris. Par ailleurs, on voit bien que ces chiffres sont assez fort contrebalancés par la relative, voire même la diminution du nombre d'absences de longue durée, donc ça veut dire qu'il y a une espèce de jeu de balancier qui se fait entre des absences de très courte durée, donc des gens qui doivent vraiment s'absenter, et des absences de plus longue durée, où là on peut imaginer que les travailleurs consultent le médecin quand il faut le consulter, et la durée d'incapacité de travail est donc moins longue.
Après un an, comment évalueriez-vous l'impact de cette loi sur le secteur de l'emploi ?
C'est très compliqué à le faire après un an et uniquement avec les chiffres d'un service de prévention, enfin d'un service de contrôle médical. On voit qu'il y a effectivement une différence entre entreprises de moins de 50 et plus de 50, mais c'est logique puisque cette disposition est réservée aux entreprises de plus de 50. Chacun voit ce qu'il a envie de voir dans ces chiffres. Hein. Certains disent que oui, ça montre bien que les travailleurs sont tous des profiteurs, en tout cas une partie, etc. D'autres disent que non, c'est simplement la preuve qu'il y avait probablement pas mal de travailleurs qui allaient sur leur poste de travail malade mais qui ne pouvaient pas s'absenter parce qu'ils ne pouvaient pas ou parce qu'ils ne trouvaient pas le médecin généraliste. Pour rappeler aussi, pour relativiser la chose, que c'est possible uniquement 3 fois sur l'année. Donc au mieux, une personne qui abuse du système aurait un bonus de 3 jours par rapport à vacances, qui est quand même à relativiser. Mais même, voilà. Après, on ne peut jamais dire qu'il n'y avait pas de fraude. Le zéro fraude n'existe pas. Je pense qu'elle est très très largement minoritaire dans ce contexte.
Qu'en est-il pour le secteur de la santé, donc l'impact après.
Évidemment, il faut regarder les chiffres sur du long terme. Je pense que ça a libéré les médecins généralistes d'un poids. Ça fait longtemps qu'on parle de cette mesure. Moi, c'est la promotion de cette mesure depuis plus de 10 ans. Elle existe dans d'autres pays, dans les Pays-Bas, etc. Parce que je pense qu'on peut faire confiance à l'immense majorité des employés pour savoir ce qui est le mieux pour eux ou pas. Surtout quand la mesure est bien encadrée, comme c'est le cas maintenant. Moi, je pense que du point de vue des généralistes, c'est très important de pouvoir libérer du temps sur la paperasserie administrative, des certificats inutiles. Tout ce qu'on peut éviter comme travail surnuméraire et inutile dans leur cas, leur permet de libérer du temps pour passer plus de temps avec des patients pour des problématiques plus complexes. Donc je pense que ça va dans le sens de ce qu'ils veulent. Ils étaient très très demandeurs de ce genre de mesures, en tout cas la plupart de ceux avec qui j'ai discuté. On demande des certificats pour tout et n'importe quoi pour se couvrir, et ça retombe sur le médecin généraliste qui perdent du temps littéralement à faire des consultations inutiles.
Estimez-vous que cette loi peut encore être améliorée ?
Je laisserai quand même 2-3 ans avant de faire une évaluation vraiment quantitative et qualitative, avec des chiffres de toutes les entreprises, donc pas seulement d'un seul secrétariat social, enfin de Sécurex. Après, si effectivement on voit qu'il y a un absentéisme injustifié qui se développe, oui, il faudra en rediscuter, mais il faut venir avec des preuves. Nous sommes un gros employeur de 4500 personnes ici à Solidaris, et c'est le genre de mesures qu'on trouve intéressantes, parce que voilà, on a aussi du présentéisme, on a aussi de la surcharge de travail. Quand on peut libérer un travailleur du poids d'un problème de base, et ça peut être plein de choses. Moi, je pense par exemple, c'est un problème totalement aveugle, mais le problème des règles douloureuses chez les travailleuses. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on sait très bien que certaines femmes ne savent pas travailler dans ces périodes ? Pourquoi est-ce qu'il faut aller chez un médecin généraliste pour obtenir un certificat médical parce qu'on a des règles douloureuses ? Il y a plein de problématiques où le certificat médical n'est pas nécessaire, et je pense que ce serait dommage de jeter cette loi.
Je ne pouvais pas terminer ce podcast sans aller tendre mon micro du côté du secteur de la santé. Je me suis donc rendue au centre médical de Woluwe pour discuter avec la médecin généraliste Sarah Kums, membre de la Société scientifique de médecine générale et très active sur le sujet.
Bonjour.
Bonjour.
Comment avez-vous initialement réagi à l'approbation de la loi sur les certificats médicaux il y a un an ?
Je trouve que cette loi est en fait une très bonne chose, puisque moi, mon métier, c'est de soigner les gens, et souvent, on avait des consultations pour des gens qui allaient mieux, qui n'avaient pas besoin de voir un médecin, qui avaient juste besoin d'un papier et juste besoin du certificat pour le travail, et c'est assez frustrant de perdre son temps à ça, alors que c'est pas ça le cœur de notre métier.
Un an après sa mise en œuvre, quel est votre avis et quel est l'impact sur votre métier en fait ?
C'est difficile de juger concrètement parce que je ne tiens pas de statistiques précises, mais j'ai quand même l'impression de voir beaucoup moins de patients qui se présentent uniquement pour un certificat. Ça arrive toujours de voir des gens qui n'ont besoin que d'un certificat d'un jour, mais généralement c'est parce qu'ils sont inquiets ou ils ont besoin de conseils sur leur santé, et que donc c'est une consultation qui a du sens. Mais effectivement, je vois de moins en moins souvent des gens qui ne viennent que pour le certificat. Et c'est sûr que c'est une revendication des médecins généralistes en fait depuis plusieurs mois, on a lancé une campagne d'ailleurs qui s'appelle la campagne Crocodile Bleu contre la surcharge administrative pour justement dénoncer toute la surcharge de travail qui est liée à des motifs purement administratifs et plus du tout médicaux. Et donc les certificats d'un jour, en fait, c'est un bon exemple. Ce sont des consultations où on n'a pas de plus-value médicale à cette interaction. Le seul but est de remplir un papier. Ça nous prend du temps et qu'on ne peut pas consacrer aux patients qui ont vraiment besoin de leur médecin généraliste. Donc éliminer les consultations pour motifs administratifs, dont les certificats d'un jour, c'est assurément quelque chose qui aide les médecins qui sont déjà surchargés de travail par ailleurs. Le Collège de médecine générale a lancé l'action Crocodile Bleu pour dénoncer la surcharge administrative et on a créé un site internet certificatabsurde.be et un joli petit cachet de crocodile bleu qu'on met maintenant quand on a des demandes de certificats où on se dit mais en fait il n'y a pas besoin d'un médecin pour attester de ça. Et donc les certificats d'un jour c'est un seul exemple. Les crèches ce sont aussi les spécialistes. On va donner un certificat pour un enfant qui est malade, un certificat de 5 jours et au 6e jour les crèches vont demander ah, mais il faut retourner vers le médecin pour prouver qu'il est bien guéri. Ça nous fait une surcharge de travail qui est complètement insensée. Non à la surcharge administrative, non au certificat absurde. Laissons les médecins faire leur travail de médecin et pas de gratte papier.
Pensez-vous que c'est une bonne chose que les patients aient l'occasion de ne pas consulter un médecin quand ils sont malades seulement un jour ou ça peut avoir des répercussions négatives?
Je pense que tant que c'est très clair pour les patients que évidemment ils sont toujours les bienvenus chez leur médecin traitant s'ils ont besoin de conseils médicaux, s'ils sont inquiets pour leur santé, s'ils ont besoin d'être examinés, évidemment les gens peuvent continuer à aller chez le médecin. Par contre, moi je suis contente de ne plus avoir ce rôle qui est parfois un petit peu de fliquer les gens. Quand quelqu'un vient me voir en disant j'ai vomi toute la nuit, moi j'ai aucun moyen de vérifier si c'est vrai et donc moi je suis contente de pouvoir juste dire je crois mes patients. Je trouve que ça permet au médecin de vraiment jouer son rôle de médecin et pas de contrôleur de toi t'as le droit d'aller travailler, toi tu peux pas. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose d'avoir supprimé ces certificats.
Estimez-vous que cette loi peut être améliorée ou elle est bien comme ça?
Pour être honnête, moi-même je suis partagée. Pendant tout un temps je me disais que ça pouvait même être prolongé à 3 jours parce qu'il y a des tas de problèmes de santé. Par exemple une gastro, ça peut durer 1, 2 ou 3 jours sans avoir besoin de faire autre chose que de se reposer et de boire du bouillon et d'attendre que ça passe. D'un autre côté, c'est vrai que c'est probablement la porte ouverte d'une part à des abus et d'autre part, ça risque d'entraîner un retard diagnostique de gens qui ne vont plus se présenter chez le médecin parce qu'ils pensent que ça va passer alors qu'en fait, ils auraient quand même bien fait de venir un petit peu plus tôt. Donc j'hésite.
Globalement, cette loi sur les certificats médicaux est plutôt bien reçue. Un an après, elle semble avoir un effet positif sur le domaine de la santé. Pour le secteur de l'emploi, on remarque une légère hausse du taux d'absence, mais cette loi contribue aussi à réduire le présentéisme et à prévenir l'épuisement professionnel. Reste encore à voir comment cette loi évoluera à plus long terme, afin de pouvoir en faire une analyse plus précise et détaillée.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Il est disponible sur notre site, notre application et toutes les plateformes de podcast. À demain!